Pas d'intervention. Il y a peut-être déjà des questions à vous poser. Par vos questions, puisque c'est une table ronde, commençons par vos discussions.
Moi j'avais pensé tout à l'heure, c'était, mais j'ai ressenti dans les deux, c'est par rapport à la honte. Quand tu dis la honte, c'est des gens qui n'ont pas de honte. Là aussi, ils en disent à un moment, tu n'as pas les codes, ou tu joues sur les codes en étant décalé par rapport aux codes, mais tu n'as pas honte. Alors, ou bien parce que tu n'as pas conscience que tu n'es pas dans les codes, ou bien là, c'est au contraire, j'ai conscience et je vais en jouer. Et les personnes que je présente aussi, c'est des gens qui n'ont pas honte. C'est-à-dire qu'à un moment, la question de la honte, elle est dépassée par la façon de paraître, y compris par exemple chez des gens qui pouvaient être mal dans leur peau, qui pouvaient être un peu complexés, et du jour où elles accèdent à un certain type de pratique, la honte disparaît. Alors je sais pas, peut-être que si vous voulez réagir sur cette notion de honte, je trouvais que c'était un peu transversal. Oh, sinon je... ouais, c'est juste une remarque du coup, Brune, je sais pas si...
La différence entre Dandy et Gaga était, et peut-être celle-ci en fait, c'est que les Gaga n'a sûrement pas conscience de ce qu'il fait. Lui, il est convaincu d'être un personnage, d'être un homme raffiné avec de la classe. Et ça fait en sorte que non, il n'a pas honte. Et du coup, les gens se moquent plus volontiers de lui parce qu'il fait n'importe quoi plutôt que du Dandy qui en lui-même il a une culture derrière, C'est un peu comme le punk au final, il y a une raison d'être en fait. Alors que celles qui mettent les petits piercings parce qu'ils veulent être subversifs dans les 16e, ben on se moque plus volontiers d'elles. Voilà.
Oui, moi juste pour rebondir, parce que ta présentation, et j'avais déjà vu un peu tes travaux, mais là ça m'a fait penser que... les bouffons rituels, et comme le personnage du clown dans le théâtre en général, on dit toujours qu'on ne joue pas le bouffon, ou c'est un personnage qu'on ne joue pas, on est bouffon. Et c'est ce qu'on retrouve un peu dans les trois présentations, c'est le vraiment être ça. Et même, mais alors la différence, c'est que, alors pour moi justement, être bouffon rituel ou clown, c'est notamment, ça se montre par le fait qu'ils ingurgitent beaucoup de choses, ils mettent en jeu leur corporalité. Et donc j'avais une idée un petit peu comme ça, mais c'est vrai, quand je vois tes images, c'est vraiment des petits joueurs. Et et en fait, tout, ils prennent aussi des objets, mais ils les mettent pas sur leur peau, ils les mettent sur leur parure. Et en fait, ce qui leur permet de changer, de s'ajuster aussi, et de jouer plus que de se transformer. Donc il y a une transformation d'eux-mêmes, et là on l'a vu dans les trois présentations, qui transforme la relation avec les autres, et c'est énorme, et c'est le je ne sais pas si c'est le but, mais en tout cas c'est un effet des plus évidents. Tu en parlais aussi tout à l'heure, vraiment la relation qui est transformée. Mais ensuite, effectivement, il y a plusieurs degrés, et par exemple les bouffons rituels avec lesquels je travaille, ils veulent pas transgresser, ils veulent rester justement à cette limite entre le subversif et l'accepté. Donc je pense qu'il mettre tous ces objets sur un tissu plutôt que sur eux-mêmes, c'est une manière de, voilà, c'est la frontière, je pense, entre la peau et le tissu.
Peut-être une réaction aussi, alors, sur ce que tu présentais, sur la façon dont le bouffon va construire sa vêture avec des objets récupérés, des objets de la société en fait, qui traînent, un filet de pêche, des bouchons de bouteilles en plastique, etc. Et c'est exactement l'époque du début. Avant la stylisation, tous les punks que j'ai interviewés, les anciens, donc les anciens encore vivants, ceux qui ont maintenant 60, 65 ans, ils le disent, nous en fait, on faisait nous-mêmes, on récupérait des trucs à nos parents, qu'on avait honte que nos parents portent, mais on les portait nous, mais on les portait d'une manière que nos parents ne pouvaient pas les porter. Les barésies qui se montrent, les choses déchirées, etc. Et c'était fait, ou des sacs poubelles. Les gens me disent, nous, on mettait un sac poubelle, on faisait deux trous, on plaçait les bras, on faisait une échancrure, on avait une robe. Et c'est quelque chose qui, ensuite, a été stylisé, notamment avec l'influence de Westwood, qui a produit une imagerie punk, mais dans un premier temps, quand on regarde les images, et ça bascule très vite, c'est vraiment intéressant alors, en termes d'histoire de la mode. C'est-à-dire que si on regarde l'histoire du punk anglais et de la façon dont ils vont jouer sur leur apparence, la mode change, elle change trois fois en un an, et peut-être même plus vite.
J'avais justement une question pour toi à ce niveau-là. Quel est ton point de vue par rapport au fait que depuis que quand la mode intègre dans son système quelque chose qui avant était considéré comme subversif, comme contre-courant, quand tu dis justement Vivienne Westwood prend les punks et les fait défiler, est-ce que les punks a toujours le même impact social à ton sens? Les images qu'on a vues, elles sont troublantes, elles sont bouleversantes, mais est-ce qu'il n'y en a pas qui rigolent, en fait?
Sur Westwood, enfin moi, il y a une bascule, c'est il y a Westwood, bien sûr, qui va styliser le punk et qui va donner cette image, qui va habiller les Pistols, en fait. Quand ils vont sur scène, ils sont habillés par Westwood. Donc ils ont une tenue de scène qui est construite avec les vêtements qu'elle vend à sa boutique. Dans la boutique sexe. Donc elle fait une présentation de...
C'est déjà plus spontané.
Voilà, et d'ailleurs c'est intéressant de lire la biographie de Lyndon que vous avez vue, donc Johnny Rotten, qui dit que lui il n'était pas du tout dupe, c'est un truc qu'il avait bien compris. Bon, mais en même temps ça leur permettait d'avoir un peu d'argent de tourner. Bon. En revanche, autre bascule pour moi, pour le piercing, c'est Gauthier 94-95. Gauthier qui fait défiler, je crois que c'est 94, vous voyez, le temps des implants, les implants s'inventent, et Gauthier au même moment à Paris fait défiler des mannequins avec des piercings. Et là, on passe 94-95, et c'est important ta question, et de la resituer dans l'histoire. 94, il y a deux boutiques de piercing en France. En France, il n'y en a pas à Paris. Il y en a une à Avignon, il y en a une à Lyon. Il y en aura une à Strasbourg en 95. Il y en aura à Mulhouse plutôt, qui va être à Strasbourg après. Il y en aura une à Paris en 97. Donc, quand Gauthier fait défiler des gens percés à Paris, il n'y a encore pas de boutique de piercing à Paris. Donc, tu vois ce passage des subcultures. Ah, tout d'un coup, la visibilité médiatique, ça a vraiment fait un tabac. Tout le monde a montré ces images. Donc là, il y a une bascule. Alors, est-ce que ça fait rire? Ça fait rire quand aujourd'hui, Ron Athey, que vous avez vu, donc qui était en punk, qui avait son piercing au téton, quand il dit bah, « Quand je me fais percer le nombril début 80, je ne peux pas imaginer que 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, toutes les gamines de Los Angeles, elles vont se promener le nombril percé à l'air. » C'est inconcevable. Donc c'est des choses qui... Et ça le fait rire. Lui, ça le fait rire. En revanche, quand on voit aujourd'hui des punks, alors avec des piercings, etc., des gros plugs aux oreilles, qu'on les croise dans les rues de Paris, à 3 ou 4, avec des chiens en battle dress, ça fait moins rire. Enfin, on n'a pas envie de rire tout de suite. On évite de rire face à eux, mais il y a des gens qui se moquent, bien sûr. Après, c'est... Mais en même temps, il y a un déplacement permanent intergénérationnel, c'est-à-dire que les nouvelles générations, elles s'approprient des éléments de la culture punk, sans forcément reprendre les codes, et donc c'est des déplacements permanents. Enfin, c'est l'impression que j'ai.
J'avais une question aussi pour Massimilio, parce que on voyait un peu l'idée de. On parlait un peu. Enfin, quand tu parles de la première boutique de piercing, avec la première boutique, il y a aussi un contrôle qui s'est mis dedans. Contrôle d'hygiène, et aussi moi la première fois que je suis allée dans une boutique de piercing, on m'a demandé ma carte d'identité pour pouvoir me faire percer, donc il y avait un contrôle qui était associé, c'était en 96, oui j'ai l'air jeune mais... et donc il y avait, je sais pas si c'est toujours l'actualité, donc il y avait une sorte de contrôle, et tu parlais de justement aussi de... Il y a un milieu il y a un milieu interne où il y a une sorte de contrôle aussi interne où il y a des modes qui se passent, où il y a des éléments qui se transmettent, donc il y a cet élément-là. Et je me demandais justement pour toi, est-ce qu'il y avait une sorte de communauté et une sorte de jeu de diffusion ou de contrôle qui se faisait en interne ou en externe par rapport au choix des parents?
Bah, c'est sûr que si on parle du 19e, début 20e siècle, pour le genre de personnage que je viens de présenter, il y a un effet de. Déjà, il y a des aires géographiques bien définies, c'est-à-dire des centres-villes, des endroits où la mode se passe, où il y a les boutiques, des endroits où il y a les salons, où il y a les aristocrates qui habitent. et les salons de ces derniers, les salons qui peuvent être littéraires plutôt que théâtraux. Après, oui, il y a les endroits où on se montre, la rue principale, l'opéra, ce genre de choses-là. Donc oui, si on parle d'éléments qui peuvent en effet influencer l'un et l'autre, je ne sais pas, l'autre de forme gris plutôt que les guêtres jaunes. Oui, ça se passe entre ces personnages-là dans un circuit qui reste quand même très fermé. Les caricatures qu'on a vues, qui représentent ces personnages bizarres, ils sont bizarres surtout pour les gens du peuple qui les voient dans la rue et qui ne les comprennent pas, en fait. Pour un certain milieu qui a l'habitude d'avoir que des personnages du semblable, pour eux, c'est plutôt le peuple qui fait rire, suivant. Moi j'avais une question pour toi par contre. Ces bouffons dont tu parlais, eux ils jouent un rôle en fait. Ils sont pas, c'est pas un statut, c'est pas un travail, disons, 24 heures sur 24 pour eux. C'est vraiment juste un rôle pour les festivités. Et cela n'est pas. Enfin, ça gêne pas dans la vie de tous les jours en fait pour eux.
Si, en fait, et c'est pour ça, ce qui est intéressant, c'est que. En fait, je disais que c'était un statut hérité, donc on peut naître bouffon sans le vouloir. Et ce qui est très très difficile à assumer, et en fait, la plupart ne pratiquent pas la bouffonnerie, donc ne se montrent pas, ne se vêtent pas, ne se conduisent pas comme des bouffons rituels. Et donc, il y a vraiment un travail de. Justement, d'habituation. Donc, ce qu'ils me disent, c'est que ceux qui sont vraiment actifs. Ils vont se balader, ils vont se montrer pour que les autres, justement, soient attirés, n'aient plus honte de le faire et rendre pour que ça devienne quelque chose, une sorte de. Ce jeu aussi est une normalisation. Il faut qu'ils restent différents, mais il faut en même temps que. Voilà, s'ils ne se montrent pas, une seule personne n'oserait pas se balader dans le village comme ça. Donc il y a cette création, justement, d'un effet de groupe. Pour pouvoir le faire. Et ensuite, ça donne une position dans la société qui est assumée. Alors après, c'est un rôle qui est assumé au quotidien. C'est-à-dire, ils jouent les médiateurs. On va les appeler. S'il y a une injustice, on va les appeler. On va chez eux. Et donc là, ils appellent tout leur... C'est un réseau ensuite de personnes. Et là, ils vont faire le bazar de devant le juge. Mais il y a beaucoup qui ne veulent pas s'afficher comme ça, effectivement.
Cela m'a fait penser à certains personnages que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire les sapeurs, qui c'est un phénomène congolais. Et les sapeurs, la SAP, ça veut dire la société des ambianceurs et élégants. Et ce qu'ils font, les sapeurs, c'est justement de se saper. Saper comme jamais, comme dit aussi la chanson, pour mettre de l'ambiance dans les fêtes à Brazzaville, et pas qu'à Brazzaville, mais les fêtes peuvent être aussi des funérailles, peuvent être des banquets, des mariages, un peu tout en fait. Et eux, pour eux, être sapeur, c'est un peu un métier aussi, parce que même si c'est pas forcément des gens riches, voire pas du tout en fait, ils investissent énormément de leur temps, de leur énergie, de leur argent pour venir à Paris s'habiller, rentrer au village et être payé pour faire représenter l'homme élégant de la situation.
Oui, ça rentre complètement. J'avais regardé un peu ce que faisaient les sapeurs parce que ça rentre parmi ces communautés qu'on appelle d'ambianceurs, en fait, des personnes d'ambianceurs, et ils jouent évidemment sur leur manière d'être et qui inclut.
Ça inclut toute une philosophie de vie. Il y a des règles très précises, très strictes sur comment l'être, sur comment pas l'être. Il y a des degrés des sapeurs à l'intérieur de la communauté. C'est assez fascinant et c'est assez long quand même. Oui.
Juste pour ouvrir les questions à la salle, on a une dizaine de minutes avant qu'on passe à la prochaine intervention. Il y a 2000 questions à vous poser. J'aimerais que vous donniez les 3 collègues de la salle, si c'est possible.
Bon, bien fait, Denis. Moi, je suis pas sûre d'avoir une question, mais c'est la prise de risque qui m'intéresse. Parce que dans vos deux interventions, dans le micro, vous avez fait. C'est la surface, même s'il y a du fond. Il faut arriver chez soi, il faut s'être déshabillé, il y a des corps nus et des personnes qui seraient identiques. Alors que dans l'intervention de Philippe,
la prise de risque est complètement différente. Il n'y a pas de costume à retirer le soir. C'est une question, mais j'aimerais bien.
C'est sûr qu'en effet, quand on enlève une chemise ou une cravate, on est à poil, hein, alors que c'est plus difficile d'enlever un piercing, même si apparemment il y en a qui se dévissent. Je ne sais pas comment ça se passe la nuit d'ailleurs, ou les sexes, mais en tout cas, je pense que quand on assume un piercing, on assume aussi au sein d'une société comme la nôtre, contemporaine, aujourd'hui, je veux dire. On assume de la même façon les portes constantes de la cravate plutôt que du chapeau. C'est pas parce qu'on peut les retirer plus facilement que cela n'est pas que cela est moins fort en fait, esthétiquement, visuellement, moralement aussi.
Je pense que le risque, c'est le risque du jugement, tout simplement déjà. Le premier risque, c'est le risque du jugement et le jugement des proches, que ce soit justement le port d'une cravate ou ne pas porter la cravate, selon le milieu dont on vient. C'est le risque, c'est accepter le risque d'être jugé parce que justement on sort des codes où on est en marge des codes, on est limite. Le fait de. Je savais pas que c'est les chaussures des proxénètes à deux couleurs. Mais voilà, par exemple.
C'était le cuir jaune.
Le cuir jaune, voilà. Alors, le cuir jaune, si jamais je mets du cuir jaune justement et que je le fais volontairement parce que je sais que ça a ce sens-là, même si je suis pas proxénète, mais je sais que ça va avoir un impact sur les gens qui savent que c'est un cuir de proxénète, forcément, ce premier risque, il est là, à mon avis. Après, c'est vrai, la cicatrisation, une fois que c'est fait, après, on sent plus. Les gens ne sentent plus le piercing. Mais il y a des gens qui enlèvent leur bague avant de se coucher, leur boucle d'oreille, il y en a qui les gardent. Voilà, ça après, je crois que c'est un peu du même ordre. Et je crois que c'est moins dans le fait de se retrouver nu avec des ornements qui restent que dans le regard de l'autre, que le risque est pris, quoi.
Et moi, je me demandais si il y avait dans la littérature autour du punk des études qui adressaient l'influence qui était quand même assez flagrante de, par exemple, du bijou indien. Et j'ai pas, non, pour moi je suis pas, en tout cas j'ai pas rencontré ce type d'interprétation, mais je trouvais que ce serait intéressant dans la mesure où on parle beaucoup de la manière dont comment les punks ont finalement rendu visible ce qui était caché. Donc on a de la lingerie qui se porte sur le vêtement, etc. Mais je me demandais si voilà, de l'histoire de l'Empire britannique et de rapport à l'Inde et l'Asie n'était pas aussi une manière d'être. On parle aussi du nihilisme punk, etc. Mais est-ce que justement, si on adressait la question, peut-être que ça relativiserait aussi certaines idées sur le punk.
Pour moi, clairement non. Clairement non. En revanche, si on décale, alors c'est compliqué parce que c'est un foisonnement qui se passe au même moment. Tout se passe en même temps à différents moments. Au même moment, par exemple, il y a des gens qui commencent à se suspendre par des crochets. Et dans ces suspensions, il y a une influence qui vient de la côte ouest américaine, qui est d'ailleurs en lien avec Jim Ward, c'est Fakir Muzaffar. Fakir Muzaffar qui a expérimenté sur son corps tous les rites traditionnels qui jouaient sur le corps. Et tous les rites à l'échelle des civilisations, hein, qui viennent de toutes les surfaces du globe et de toutes les périodes. Et Fakir Muzaffar, lui, quand il fait ses suspensions, il commence par faire des suspensions par la poitrine, et il s'inspire de ce qui se fait dans les plaines d'Amérique du Nord. Dans le Dakota, il est du Dakota, donc il voit les Indiens du Dakota qui ont ces rituels ancestraux. Au même moment, il y a Stellar qui fait ça, mais au Japon, lui. Ils font ça en même temps, mais ils ne se connaissent pas. Et Stellark au Japon, lui en revanche, quand il expérimente la suspension, il est pas du tout dans une logique mystique, mais il est dans une logique d'expérimenter la suspension pour expérimenter l'apesanteur. Et lui, il va s'inspirer des rites des sadhus indiens. Donc il a ces images des sadhus. Mais Muzaffar, et puis après ils vont se retrouver, et il va y avoir une circulation de ces expériences de l'ailleurs et de l'autre. Mais chez les punks, non, je vois pas ça. En revanche, on le voyait chez les hippies. C'est juste avant. Mais comme pour un punk, un bon hippie, c'est un hippie mort. C'est ce qu'ils disent, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Et que justement, par exemple, les punks de la fin des années 70, et ils sont très nombreux à le dire, quand on regarde les biographies, les autobiographies, les interviews, ils disent, nous, on en avait marre des pantalons à pattes d'éléphant. Parce que justement, c'était le mouvement à pattes d'éléphant qui était inspiré un peu de cette mouvance hippie, etc. Mais stop, on en a marre, ça. C'est trop cool, en fait, voilà. L'influence indienne est trop cool. Quand on voit les Rolling Stones, quand on voit les Beatles, fuck. Enfin, c'est vraiment cet esprit là de. C'est quoi ces rockers qui deviennent cool, quoi? Et là, il y a une rupture, il y a une volonté de rupture. C'est pour ça que je trouve qu'il y a. Alors, peut-être qu'il y a des connexions, mais c'est pas dans l'affichage, et c'est plutôt en rupture qu'il y a quelque chose qui se passe.
Si je peux me permettre d'intervenir.
Dans la tradition indienne, il n'y a pas de pattes d'éléphant, alors qu'il y a carrément des femmes qui portent des chaînes reliées.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, mais après. Non, mais j'ai pas dit que c'était. J'ai dit que je parlais des hippies, je parlais pas des Indiens. Je parlais des hippies et d'une culture qui. Voilà, mais c'est. On est bien sûr. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis qu'il y a une rupture avec ce qui se passe en Europe, justement, et qui était en partie influencée par, justement, cet attrait de l'Inde dans les années 60-70. Là, on est à la fin des années 70. Et il y a une volonté de rupture avec ce qui se passait. Mais alors, ce qui se passait chez qui? Attends, je termine juste. Mais ce qui se passait chez les grands frères, en fait. Si on est à l'échelle des générations, c'est les punks qui ont 16, 17, 18 ans, en fait, ils sont aussi en rupture avec leurs grands frères, qui, 2 ans, 3 ans avant, ont les cheveux longs et les pattes d'éléphant. C'est ça, il y a aussi ça qui joue. C'est-à-dire que cette rupture, elle se fait sur un temps très court. Ça ne veut pas dire qu'après, effectivement, les chaînes reliées, etc., il n'y ait pas des influences qui viennent d'ailleurs et des façons. Mais je suis quasiment sûr qu'au tout début, c'est pas du tout ça qui motive et c'est pas ces images-là qui font qu'on va prendre des images qu'on a vues en Inde et on va se dire, bah nous on va le faire avec des épingles à nourrice et des chaînes. Je suis quasiment sûr que c'est pas comme ça que ça s'est produit. Mais je vérifierai.
C'est super.
Oui, c'est pas vrai. Je sais qu'un élément qui a été beaucoup critiqué de la culture punk, c'est justement la reprise de l'Iroquois qui crête justement des. Enfin, une coiffure traditionnelle des personnes Premières Nations et qui a justement été étudiée comme un cas de whitewashing, justement dans l'histoire punk, parce que c'est une. Voilà, c'est pas du tout une parure, c'est pas du tout une coiffure qui a des traditions européennes. Je sais que c'est un cas notamment de critique de la culture punk, en tout cas par les personnes racisées en ce moment. En fait.
Mais critiquer quand? À l'époque?
Non, pas à l'époque.
D'accord, non.
Oui, mais ce qui n'empêche pas, parce que c'est aussi des. De qui a l'accès
à faire
de la politique à quel moment
sur le punk, là, on s'interroge sur la crête. Ça vient de quand la crête? La première crête, c'est Mont-de-Marsan 77. Mont-de-Marsan, il y a eu un premier festival punk. Il y a eu deux festivals punk à Mont-de-Marsan 77-78 et étiqueté punk. Bon, c'est la première fois qu'on voit une crête, mais en fait, la première crête, c'est pas la musique punk. La première crête, c'est Taxi Driver. C'est 77 aussi. Et 77 Taxi Driver, quand il se rase la tête, effectivement, c'est là aussi c'est une image choc. Tout le monde l'a en tête, cette image. Taxi Driver, De Niro avec la crête. Et c'est ça, pour moi, qui influence plus les punks européens, qui est parce que c'est une logique transgressive qui est très véhiculée par Hollywood, que la volonté d'aller chercher. Alors après, oui, après, il y a un recours, et même très fin, en termes de distinction entre c'est une Iroquoise ou c'est une Mohawk. Parce que les Mohawks et les Iroquois, c'est pas les mêmes. Et du coup, l'Iroquois va être considéré comme moins révolté face à l'ordre capitaliste que les Mohawks. Et donc, les Iroquois sont considérés un petit peu comme des blancs stylisés, voilà. Alors que les Mohawks seront plutôt des. Encore aujourd'hui, en 2017. Et ce que tu dis sur ce qui est critiqué, c'est critiqué 40 ans après. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut. J'essaie à chaque fois de voir qu'est-ce qui se produit comme image. Comment elle se diffuse, qu'est-ce qu'elle génère comme trouble, et c'est pas étonnant qu'elle trouble aussi aujourd'hui des personnes qui considèrent que elles sont, leur culture est dépositaire d'une manière de paraître, par exemple la crête, l'iroquoise, mais l'iroquoise, c'est pas l'iroquoise des punks londoniens, et je comprends qu'il y a aussi ce trouble-là en termes de dépossession de quelque chose, mais les choses se font de façon moins directe peut-être que ce que la question a laissé penser, je pense.
Les Redskins,
les Redskins, ça c'est par rapport, c'est l'histoire des skins, c'est les gens qui se rasaient la tête. C'est par rapport au fait que les skins ont été étaient plutôt des jeunes hommes d'origine populaire, droite, extrême droite, nationaliste, et les Redskins c'était des skins qui se rasaient aussi la tête, mais qui disaient, qui défendaient des idéaux de gauche et qui étaient plutôt dans le fight avec les skins. Donc voilà, c'est cette histoire. Et du coup, alors ça se joue après, c'est intéressant, ça se joue sur des lacets. C'est-à-dire qu'ils sont habillés pareil, avec des docks, mais ils ne vont pas mettre les mêmes lacets, ils ne vont pas mettre le bomber du même côté, etc. Donc après, il y a des codes qui vont s'afficher durant un temps, puis après on oublie d'où ça vient, et puis tout le monde se rase la tête et tout le monde est content.
On va prendre une dernière question là-bas avant de passer à la prochaine, parce que après, le sujet de la décolonisation de l'histoire est quand même assez vaste. Donc on va juste le parquer là. Caroline ?
Non, je fais juste une remarque que je passe à Caroline, juste sur cette question de la revendication de marginalité, justement d'autorisation ou non à porter un certain nombre d'attributs, sur la question de l'indianité ou des attributs qui seraient indiens ou des natifs, il y a des éléments bien antérieurs au phénomène des punks et des phénomènes de punks, je ne sais pas exactement de quoi ils s'inspirent, mais si on prend Sonny Rollins en jazz, il porte une Iroquois bien antérieure, en l'occurrence ça serait d'ailleurs plus Mohawk. Et bien avant cela, dans les années 30, lorsque Cab Calloway s'habille d'une manière, il invente ses autres suites, donc ses costumes très opulents, il met sur son chapeau une plume d'Indien comme revendication de marginalité, en fait, comme subversion des habits habituels de bienséance.
C'est pour Philippe, c'est le fait que tu parles des de Gonzalez.
Non, il faut juste parler bien dedans.
J'ai compris. tu parles de ses patients. Est-ce que c'est un médecin?
Oui.
Non,
j'ai dit patient, c'est pas... J'ai dit patient, c'était une provocation dans mon propos. Parce que, par exemple, j'ai dit patient tout simplement parce qu'en arrière-plan, j'avais l'idée que quand je présente des photos des gens qui ont subi comme ça des ablations de l'oreille ou du nez, ou alors sur Internet, quand on voit sur les forums, les gens se demandent quels sont les médecins qui ont osé faire ça. C'est pas des médecins, c'est ce que j'appelle des artisans de la chair. Voilà. Mais sur les plumes, etc., il y a tout un travail à faire. C'est à vous de le faire, hein, en historien du bijou. Je pense à Keith Richards, le guitariste des Stones, qui à un moment, il est un des premiers à se percer l'oreille, fin des années 70. Aujourd'hui, tous les rockers ont une boucle d'oreille. Et il porte une plume aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, effectivement, va être utilisé dans l'histoire de la musique de façon récurrente et de façon... alors, pas forcément de la même manière, pas forcément pour les mêmes raisons, mais on le retrouve régulièrement.
On est en train d'arriver dans le temps dynastique cubain, là, où tout distant. Distant, la mitad, last question.
Very, very short. I wonder if you might speak about zoot suits. And I'm thinking about the zoot suit in the United States that was a variation of dandyism that became legislated in a different sort of way. And I wonder if that has come up in your research at all.
Well, do you want a response in English or in French?
If it's easier in French, do it in French and I'll get
it. It's easier for me in French. I'm sorry. La zoussoute, pour qui ne connaisse pas, c'était une façon de... Est-ce que vous avez vu le film The Mask, La Masque, avec Jim Carrey? Le personnage, il porte toujours une zoussoute, c'est-à-dire c'est un costume cravate, mais avec des dimensions exagérées. Les pantalons sont très larges, mais ils sont serrés à la cheville, la veste a des épaules très grandes, mais elle est assez longue. Bref, ça, ce n'est pas une variation du dandysme. Le dandy, il se veut toujours unique et inimitable. Les zoussoutes, enfin, je crois qu'on les appelait les zoulous, je sais plus. Les zoots, eux, ils appartiennent à une communauté, en fait. C'est souvent comme la communauté noire de Harlem dans les années 30 et 40. Et ils veulent se distinguer d'une façon visible des blancs élégants qu'ils viennent le voir chanter et danser. Et donc c'est une provocation, et c'est une façon de se faire reconnaître, qui ne touche pas tellement le dandysme, ça peut toucher d'autres subcultures comme les punk aussi, même si les raisons ne sont pas les mêmes.
I think my question is the zoot suit was, there was legislation, there were laws passed in the United States to prevent
people from wearing zoot suits.
I didn't know that.
Yeah, and part of that became very much in California with Chicano culture, that it was disallowed. And with the topic about this being about these moments of rupture, the topic of the talk, it makes me wonder about the legislative issues about clothing and garments and where, and then, you know, I don't want to get into legislation about piercing because that could go on forever, but I'm just curious, that's why I was curious, whether there was any legislative issues.
Alors, par rapport à Zoussout, j'ignorais complètement qu'il y avait une législation par rapport à ça, ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs de creuser la chose. Mais par rapport aux lois sumptuaires, ça a toujours été le cas, surtout en Europe, en France, en Italie. Napoléon qui mettait une impôt, une taxe sur la poudre à cheveux. Louis XIV a fait un tas de lois sumptuaires et bien avant lui, le roi de France qui interdisait ou permettait de mettre certaines choses, certaines perles, certaines couleurs, certains rubans, pour faire en sorte que les gens normaux ne ressemblent pas trop aux aristocrates. Par exemple, à Versailles, il y avait toute une clique de gens qui se faisaient appeler les talons rouges. Et eux, c'était des bourgeois enrichis qui vivaient à la cour et qui portaient les talons rouges comme les aristocrates, alors qu'ils n'avaient pas le droit de les mettre. Et ils les portaient un petit peu plus haut. Comme ça, ça passait mieux, par exemple. Mais ils avaient aussi des perruques plus grandes, etc. Je crois qu'il n'a jamais vraiment eu des arrestations par rapport aux lois sumptuaires, comme j'imagine qu'ils n'ont jamais arrêté des zoutsout parce qu'ils portaient une zoutsout. Peut-être des amendes, peut-être.
Ça nous fait une très très belle transition pour la prochaine intervention. On va parler de politisation des corps. J'invite notre prochain intervenant.